TV 95.7, Music & News, avec Marianne Attanchot.
Écoutez Music & News tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6h sur RTV 95.7.
Bonjour, donc je suis Lydie Delanoux, je suis retraitée déjà depuis pas mal d'années, j'habite Vauve, donc au sud du département de Eure-et-Loir. Depuis le début de ma retraite, ou presque, j'écris presque tous les jours et quelquefois du matin au soir. Quand j'ai commencé, j'écrivais seulement le matin et c'est devenu une telle passion que voilà, ce sont des journées entières qui sont maintenant consacrées à l'écriture, sauf quand je vais sur le terrain ou aux archives ou sur le terrain pour faire des photos. Donc voilà, c'est ma première occupation. Écrire, ça veut dire, ça peut commencer l'écriture le matin très tôt, avant même qu'on soit levé. Je pense notamment aux poèmes que j'écris, aux petits poèmes. Je suis encore couchée, tout d'un coup il me vient une idée et ça se prolonge et je me répète plusieurs fois ce que j'ai trouvé dans mon lit. Je répète plusieurs fois dans ma tête de manière à être sûre au moment du lever de ne pas avoir oublié ce que j'ai trouvé. Et donc après, voilà, je me lève, je passe à l'écriture, je me dépêche d'écrire ce que j'avais en tête, comme ça. Ça m'arrive ça très très souvent. L'écriture demande réflexion, demande de tranquillité, solitude, c'est un travail très solitaire, mais en même temps, ça aboutira, on l'espère, à des partages aussi nombreux que possible. Alors les sujets abordés, y a trois genres différents. Les sujets, c'est d'abord, ça peut être de l'histoire, et j'aime surtout l'histoire locale parce que il me semble important de faire connaître des personnalités, des musées, des châteaux qu'on a dans notre département. Tout cela découle de mon expérience de prof au collège de Vauve. Je n'ai fréquenté qu'un seul collège. Toute ma carrière, 35 années, toute ma carrière s'est passée dans ce collège de Vauve, et j'avais là des collègues qui venaient d'autres régions, notamment du sud-ouest, et qui étaient mutés en Eure-et-Loir et qui y arrivaient et qui ne s'y plaisaient pas. Elles répétaient ces personnes qu'il n'y avait rien à voir en Eure-et-Loir. Et je crois que mon goût pour l'histoire locale s'est développé à partir de ces réactions-là. Et je leur disais, mais s'il y a des choses en Eure-et-Loir, pour elles, il n'y avait que la cathédrale de Chartres. J'adore la cathédrale de Chartres, mais il y a aussi d'autres choses à voir. Et c'est finalement comme ça que j'ai commencé à écrire des livres historiques. Et puis à côté de ça, donc là c'est plus du divertissement puisque j'écris des enquêtes policières et puis des poèmes comme je disais tout à l'heure. Alors le premier livre qui a été publié, c'est la biographie du marquis de Denonville. Denonville où il y a donc un petit village où il y a un très très beau château, très original puisqu'il est de couleur rose. Et donc ce château, ce domaine appartenait à la famille de Denonville, le marquis de Denonville. Mon premier livre édité, donc ça date de 2012 et il a pour titre « Jacques-René de Brizay de Denonville, un marquis Beauceron en Nouvelle-France ». Ce marquis Beauceron était avant tout un militaire et Louis XIV, puisqu'ils étaient contemporains, a envoyé le marquis en Nouvelle-France, au Canada, au Québec à l'heure actuelle, pour qu'il devienne gouverneur militaire. Et il a passé là-bas 4 ans et demi où il a combattu notamment les Iroquois qui étaient armés par les Anglais. On retrouve la rivalité entre anglais et français. Comme j'étais prof de français, d'histoire géo, le français étant ma première valence, j'ai toujours aimé écrire, bien entendu, mais c'était des petites choses. Je ne pensais pas qu'un jour j'écrirais un livre et qu'il serait publié. Alors après le marquis de Denonville, il y a eu donc Châteaubriant à Montboissier. Montboissier, c'est un domaine qui se trouve près de Bonneval. Je savais que Châteaubriand était venu séjourner là, mais je ne savais pas combien de temps il y était resté, ce qui s'y était passé, etc. Donc j'ai mené aussi l'enquête. Finalement, je suis une enquêtrice, aussi bien enquête historique qu'enquête policière. Et donc ça a été mon deuxième livre, Châteaubriand à Montboissier, donc en 2013. Et puis ensuite, la biographie de Noël Ballet l'Africain, en 2016, pour lequel j'ai passé donc 3 ans. Hein. J'ai fait des recherches pendant 3 années. J'ai accumulé énormément d'archives. Et j'ai même eu un certain vertige au bout d'un moment en me disant « je me suis lancée dans une chose qui va me submerger ». Petit à petit, ça s'est mis en place et j'ai réussi à mener à bien cette biographie. Et puis de là, j'ai enchaîné avec un 4e livre, c'est « La grande guerre du lieutenant Ballet ». C'était donc le neveu de Noël Ballet, parce que chez les descendants, donc dans cette famille Ballet, Bonnet aujourd'hui à Fontenay-sur-Eure, eh bien on m'a confié une correspondance de guerre, 219 lettres de guerre. Donc vraiment un très très beau cadeau, parce que oui, j'ai lu toutes ces lettres après les avoir classées chronologiquement, et j'ai trouvé que ça méritait un livre, ce que je n'avais pas du tout prévu. Ce livre de guerre, je l'ai dédié à mon grand-père paternel. 6 mois plus tard, ce grand-père, mon pépé, parlait très souvent de la Première Guerre mondiale qu'il avait faite, où il avait été blessé 2 fois. Et je me suis dit, finalement, pourquoi ne pas raconter la vie de mon grand-père ? Donc comme ça, je suis passée d'un livre à l'autre. Hein. Et sur ce grand-père, à propos de lui, il y avait beaucoup de choses que j'ignorais. Et j'ai fait, comme avec un étranger, les archives, les recherches. Hein. Et puis après mon grand-père, ça a été donc le livre « La biographie d'Eugène Farco ». Donc, qui est sorti en 2023. Eugène Farco, Eurélien de naissance, il a passé aussi son enfance en Eure-et-Loire, dans le village de Saint-Ville, proche d'Auneau. Mais à l'âge adulte, hein, d'abord il a été envoyé en apprentissage à Paris, puis à l'école d'horlogerie de Cluses, et ensuite il a installé sa fabrique d'horlogerie à Paris. Il a toujours gardé des liens avec son village natal, le village de Saint-Ville, où il y a un musée à son nom, parce que c'est lui qui l'a voulu. Il a donné de l'argent pour sa commune natale, pour que le musée existe. Il a dessiné la façade du bâtiment. Il a tout expliqué de ce qu'il voulait dans ses dispositions testamentaires. Et son testament a été respecté. Donc c'est actuellement, depuis quelques années, un musée de France qui est petit, mais qui vaut vraiment la peine d'être connu. Et je me suis employée depuis 2003 à faire connaître Eugène Farco. Il a eu une vie époustouflante. Un hyperactif, on dirait aujourd'hui. Donc à la fois passionné par les horloges, mais aussi par les ballons, les aérostats. En 1859, il écrit « La navigation atmosphérique », donc un petit livre dans lequel il explique, il imagine déjà que l'on survolera le continent asiatique. Il parle de survoler Shanghai. Et donc, vous voyez, il était vraiment précurseur. Hein. Et en horlogerie, il a déposé 18 brevets. Il a participé à des expositions universelles, était l'horloger officiel de Napoléon III. Donc vraiment quelqu'un de très créatif et d'exceptionnel. Et lui-même a quitté Paris à bord d'un ballon pendant la guerre de 1870. Donc il a appliqué ce qu'il avait écrit. Donc actuellement, bientôt, va se mettre en route la mise en page de mon dernier livre historique qui concerne tout simplement la rue dans laquelle j'habite à Voves. Ça s'appelle la cité Joseph Udo. Je savais très peu de choses de Joseph Udo et donc j'ai passé l'année 2024 à faire des recherches sur ce thème et ça s'est révélé également passionnant. Voilà. J'échange beaucoup sur Facebook et je fais connaître les salons auxquels je vais participer. Et puis, bien sûr, au fur et à mesure de mes publications, j'en parle. Les retours de lecture, enfin, tout ce qu'un auteur fait pour essayer de se faire connaître des lecteurs potentiels. J'étais bivalente quand j'étais prof de collège et je dirais que je suis encore bivalente puisque j'écris à la fois des livres historiques mais aussi des romans policiers. Donc, je passe de l'un à l'autre et je dis souvent que les romans policiers sont un peu mes récréations parce que là, je suis beaucoup plus libre. Évidemment, je ne raconte pas n'importe quoi. Ça ne... mais bon, il n'y a pas d'informations à vérifier aussi soigneusement. C'est un autre travail. Quand j'étais prof de français, je faisais lire des romans policiers à mes élèves. Hein. J'avais une passion pour Agatha Christie en particulier. Donc, ça m'est resté. Il n'y a pas de hasard. Donc, je parlais de bivalence hein, pour l'écriture comme pour l'enseignement autrefois. Je pourrais aller jusqu'à dire que j'ai 3 genres, puisque, mais bon, ça fait partie du français en façon de parler. J'écris aussi des poèmes de temps en temps. Donc, j'ai un premier recueil de poésie qui a été édité donc fin 2022. Tout ce que je le fais avec amour, je dirais. Hein. J'aime autant, être dans la précision, la vérification des éléments historiques que dans la mise en place d'une enquête. Et une enquête, c'est difficile aussi à écrire. Il ne faut pas se tromper dans la chronologie des événements. Et quelquefois, et je ne fais pas de plan. Alors, pour un livre historique, c'est assez facile d'avancer. Mais pour une enquête, le livre historique, on avance au fur et à mesure qu'on a découvert de nouvelles choses et qu'on les a vérifiées également. Mais pour une enquête policière, je ne sais pas comment mon livre va se comment mon enquête va se terminer. Je ne fais pas de plan et j'avance comme ça au fil de l'inspiration. J'ai une idée de départ et après, voilà. Ça. Alors, quelquefois, je patine, quelquefois, ça avance très vite. Si je patine, je laisse un peu passer le temps que ça mijote et puis j'y reviens. Et on le dit souvent, je l'ai vérifié, les personnages nous aident à avancer. Comme s'ils étaient là à nous souffler à l'oreille « Ah bah tiens, tu pourrais écrire ceci, cela », c'est un peu ça. Quelqu'un me l'avait dit avant que je commence à écrire, un auteur, et je n'y croyais pas vraiment. J'ai vérifié que c'est tout à fait ça. En relisant ce qu'on a déjà produit, ça c'est clair. Il y a une lueur qui apparaît et on continue. Quand je suis en salon, alors pour les livres historiques, on a vraiment affaire à des lecteurs qui aiment l'histoire, ça ne peut pas être autrement. Des lecteurs vraiment très spécialisés dans ce domaine historique. Et on les voit venir et ils posent des questions et on sent qu'ils sont intéressés. Mais pour les romans, il y a beaucoup de gens qui lisent des romans, beaucoup plus que pour des livres historiques. Donc la concurrence, elle est importante. Et je me dis toujours, quand je suis installée à une table sur un salon, des gens qui regardent les couvertures, j'ai envie de leur dire, mais osez, osez lire ce que j'ai écrit, osez découvrir mes enquêtes. Certaines fois, des gens regardent, ceux qui sont vraiment dans le domaine plus précisément, regardent le nom de l'éditeur. Et quand ils voient Eddie Livre pour mes enquêtes policières, Eddie Livre n'a pas eu très très bonne réputation pendant un certain nombre d'années. Et donc je leur dis, mais ne vous occupez pas de... Peu importe l'éditeur, ce qui compte c'est le livre. Et j'ai un collègue auteur comme ça, il était passé comme ça un peu dédaigneux et en fin de salon, je lui avais dédicacé l'un de mes livres. Il était tout surpris, presque un peu gêné. Je lui ai dit, lisez-le, ne vous arrêtez pas au nom de l'éditeur, lisez et vous verrez bien. Et ça lui a plu. Donc voilà, ça c'est une belle récompense. Et maintenant, on se salue, on se dit bonjour avec un grand sourire. Donc c'est gagné. Mais il faut, c'est ça la difficulté, amener les gens, les lecteurs, à ouvrir, à oser ouvrir votre roman. Les miens sont petits et souvent il y a aussi la taille qui joue. Les gens aiment souvent que les livres soient gros. Un petit livre, ils disent, j'en ai peut-être pas pour mon argent, quoi. Le dernier message, c'est que la lecture est vraiment formidable. Ça peut être un remède à beaucoup de choses. C'est une ouverture sur plein de choses. C'est découvrir, par exemple, pour les livres historiques, les richesses qu'il y a en Eure-et-Loir. Et puis l'histoire locale, de toute manière, elle est forcément imbriquée dans l'histoire nationale. Là, pour la cité Udo, par exemple, voilà Joseph Udo, que je connaissais très peu, je le disais tout à l'heure, il est mort en 1915, il est mort au combat. Son fils Étienne est mort en 1940, il est mort au combat. Donc voilà des gens héroïques, je dirais, qui ont eu une vie donc difficile. Et donc, même la veuve de Joseph Udo, elle-même, elle a été incarcérée en 1941 à Paris, dans une ancienne prison militaire. Elle avait franchi la ligne de démarcation avec 7 autres personnes. Ils avaient une voiture qui fonctionnait mal. Ils ont été arrêtés par les Allemands. Et les voilà tous les 8 qui sont conduits à Paris. Et donc, Henriette Udo est veuve de Joseph. Elle se retrouve incarcérée pendant 2 mois. Donc, elle a raconté cela. Et donc, grâce aux descendants, j'ai eu accès à ses souvenirs d'emprisonnement, entre autres. Et donc, la lecture, c'est ça. C'est découvrir des choses incroyables, inespérées. D'autant que cette même Henriette Udo, elle reçoit dans sa prison la visite d'un abbé de nationalité allemande. Mais comme elle est très chrétienne, elle dit, peu importe sa nationalité, ce qui compte, c'est qu'il m'apporte le bon Dieu. Et donc, je suis presque persuadée, d'après ce qu'elle dit, elle ne donne pas son nom, mais elle dit qu'il allait d'une prison à une autre. Et je pense qu'il s'agissait de Franz Stock. Donc, des découvertes comme ça, mais c'est fabuleux. Et dès qu'on cherche, on trouve, c'est ce qu'on dit. Donc voilà, le lecteur, il doit aussi dans les livres trouver des choses comme ça, formidables, exceptionnelles. RDV 95.7 RDV